c'est Info Club Sandwich. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier Info Club Sandwich de la semaine. En ce lundi 9 mars, je suis en compagnie de Margot. Comment ça va? Ton week-end s'est bien passé?
Super week-end, ouais.
Non, trop bien.
Et toi?
Ça a été, c'était pas très reposant. Tu reçois notre invitée Émilie Gévard et nous on se retrouve en seconde partie d'émission pour parler des actualités de la semaine. Margot, tu vas donc parler littérature avec ton invitée.
Oui, bonjour Émilie.
Bonjour.
Alors c'est pas la première fois qu'on vous retrouve à l'antenne de Radio Campus. La dernière fois c'était en 2024 pour votre recueil de poésie Créature et Créatrice.
Oui, paru aux éditions de La Chouette Imprévue.
Alors vous êtes écrivaine, comédienne et metteuse en scène et vous venez de sortir votre nouveau livre intitulé « Seconde balade ». Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu déjà pour ceux qui ne vous connaissent pas ?
Oui, alors j'habite près d'Amiens, Villers-Bocage. Je suis comédienne et metteuse en scène. J'ai une compagnie de théâtre qui s'appelle Le Poulailler. Et puis j'écris depuis longtemps, depuis que je sais écrire, j'écris avec des pauses. Et c'est assez intense à ce niveau-là depuis quelques années, voilà, entre poésie, théâtre et roman, ce qui nous occupe aujourd'hui.
C'était quoi votre première œuvre ?
Alors, ma première œuvre, c'est un poème que j'ai écrit en CE1.
Celle que vous avez publiée, on dira alors.
Oui, c'était Le soleil et le nuage, ma première œuvre. Bon. Sinon, ma première œuvre, en vrai, publiée, c'était chez La Chouette Imprévue et c'était Gésir, qui était un recueil adressé à ma grand-mère qui venait de mourir. Voilà, donc j'ai eu besoin, il y a quelques accointances d'ailleurs avec le livre que je présente aujourd'hui, j'ai eu besoin de l'écriture pour pallier l'absence de ma grand-mère.
Et donc, vous êtes surtout venue nous parler de Seconde balade,
oui,
aujourd'hui, qui est votre quatrième roman.
Enfin, oui, c'est ça.
Si on peut dire que c'est son étain, car il a la particularité d'être imaginé et structuré autour de la seconde balade de Chopin,
oui,
d'où le titre.
Oui.
Comment est-ce que vous qualifieriez cette œuvre ?
Alors moi, je considère que c'est un roman, même si, bah, effectivement, d'une part, je l'ai construit sur cette structure de la seconde balade de Chopin. Et c'est un roman autobiographique, ce qui est différent de mes autres romans qui ne le sont pas, même s'ils peuvent emprunter certains éléments à la vraie vie. Mais ça, c'est le principe de l'écriture aussi. Ici, c'est pas une œuvre imaginaire. Néanmoins, je considère que c'est un roman parce que ça raconte une histoire et parce que c'est mon point de vue, mon histoire. Et en introduisant cette structure, bah, je crée quelque chose qui, pour moi, est quand même de l'ordre de la fiction. Voilà.
Et donc, pourquoi avoir choisi la seconde balade de Chopin ?
Je ne l'ai pas choisie, elle s'est vraiment imposée à moi et c'est elle qui a été à l'origine du livre. En fait, j'ai écouté un enregistrement, c'était en janvier 2022, qu'on m'avait envoyé de cette seconde balade. J'étais face à la mer et alors sans doute que les choses avaient cristallisé déjà, mais j'ai eu l'intuition de ce roman en écoutant cette seconde balade. Et que bah, le motif du roman serait inspiré de cette balade. Voilà, après, ça s'est construit sur le temps. Mais voilà, ça s'est vraiment imposé. Et bah, de façon plus concrète, il est question d'un pianiste dans le livre. Et ce pianiste jouait les balades de Chopin, mais il avait une affection particulière pour cette balade qui lui ressemblait beaucoup par ses mouvements.
Alors, ça raconte l'histoire d'un amour passé,
oui,
mais qui est revenu un peu aussi dans votre vie. Est-ce que vous pouvez nous faire un court résumé de,
oui,
votre livre ?
Alors, je ne sais pas ce qu'il faut dire ou pas dire pour garder une forme de suspense, même s'il y en a quand même assez peu. On peut dire que ce qui a généré l'écriture, c'est effectivement des retrouvailles, mais des retrouvailles un peu manquées d'un amour de jeunesse. Alors, il ne s'agissait évidemment pas de renouer parce que j'ai construit ma vie. C'était ma vie, Jérôme, c'était ma vie il y a plus de 20 ans. Maintenant, c'était une autre vie, c'était une autre ville. Ça se passe à Lille. cette histoire-là. Et puis, Lille, c'est une ville que j'ai quittée quand j'avais 25 ans pour venir vivre à Amiens. Et vraiment, c'est comme si j'avais démarré autre chose et comme si j'avais aussi voulu écarter pendant très longtemps cette partie de ma vie. Quand Jérôme me rappelle en 2021, à l'été 2021, ça m'oblige à me replonger dans tout ça. Et il me rappelle parce qu'il a besoin d'aide, parce qu'il va très mal. Donc je ne suis plus son amoureuse, mais je suis son amie. Je l'accompagne, je l'écoute et j'essaie de l'aider.
Donc dans le livre, on traverse votre histoire qui commence donc d'abord par le silence,
oui.
Comme donc vous l'expliquez avec la seconde ballade de Chopin.
Oui.
Puis on se retrouve en 2021 d'abord donc avec
oui.
Voilà cet C'est appel retrouvé. De Jérôme. Oui. Mais cette histoire démarre réellement en 1998. Vous en faites un parallèle aussi avec votre vie actuelle. En fait, comment est-ce qu'on suit cette histoire et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus la seconde ballade de Chopin mise en forme avec vos écrits ?
Alors, bon, au départ, moi, j'écris des fragments un peu par impulsion. La structuration, elle était dans ma tête dès le début, mais elle s'est construite au fur et à mesure. Ça a été très complexe malgré tout, que ça colle. Par exemple, au départ, je voulais commencer par le plus violent. Et puis, je me suis dit, non, la ballade ne commence pas comme ça. Elle part du silence. Donc, il faut que j'accepte ce cheminement-là et d'amener aussi le lecteur dans ce chemin, même si ce n'est pas le chemin de la vraie vie. Et c'est là que c'est quand même une fiction, parce que dans la vraie vie, c'est le choc qui entraîne l'écriture. Et là, j'ai voulu retracer ce mouvement, donc un mouvement d'abord très doux, qui est celui de retrouvailles, et puis une inquiétude qui monte. Ça, c'est aussi l'écriture de la seconde ballade. Et puis d'un seul coup, on a l'impression qu'on est dans un autre morceau, ça bascule complètement. On parle un peu de santé mentale aussi. Hein. Jérôme était en clinique psychiatrique dans ces derniers mois, le moment où on s'est retrouvés. Donc il allait très mal. S'il m'a appelé, c'était aussi un appel au secours. Et il a été diagnostiqué, alors de ce que je sais, hein, plus ou moins tardivement, enfin très tardivement même, il a été diagnostiqué bipolaire. Ce morceau illustre pas mal cette maladie, je pense, voilà, dans ces deux mouvements très différents.
Et donc, vous avez commencé à écrire en 2022, quand vous avez la seconde ballade.
En 2022, j'ai écrit seulement des bribes. Et puis, j'ai laissé ça un peu de côté, c'était trop brûlant.
Oui.
Et moi, j'ai basculé aussi moralement, j'allais pas bien. Et l'écriture proprement dite, le projet, il existait déjà, mais de façon embryonnaire. Et je me suis vraiment lancée dedans un an après, en 2023.
Donc ça a pris beaucoup de temps.
Ça a pris beaucoup de temps et l'écriture a pris beaucoup de temps également.
Parce que le livre est paru le 15 janvier 2026.
Oui, oui.
Et donc comment a évolué l'écriture de ce roman avec votre parcours ?
Eh ben, j'ai essayé de l'écrire à la fois en étant à la fois ancrée dans le réel et le temps contemporain, et en même temps en voyageant dans le passé, de faire ces allers-retours sans perdre le lecteur, parce qu'il faut quand même toujours avoir un peu l'idée du lecteur. Au début, je l'avais moins. Au début, j'ai beaucoup écrit pour moi, et puis c'est aussi un roman que j'écris à Jérôme, donc qui est adressé à Jérôme. Je dis « tu » dans le livre, je le lui adresse. C'est vraiment dans une relecture, dans une réécriture quand même, que j'ai un peu plus pensé au lecteur. J'ai rajouté des dates, etc. J'ai essayé de donner des repères pour que cette forme fragmentaire soit quand même lisible. Je pense que d'après les retours que j'ai, elle est très lisible et finalement très, très claire dans son cheminement. Mais il a fallu quand même le construire, quoi, voilà.
C'est une histoire très émouvante et très complexe. Pourquoi avoir voulu le partager avec des lecteurs et au contraire, comme vous le disiez, ne pas le garder pour vous finalement ?
Parce que c'est ce qu'on fait quand on écrit, je crois, et quand on assume son écriture, ben voilà, c'est vrai que même si c'est quelque chose d'intime, c'est aussi quelque chose qui se partage et qui se transmet parce que j'ai, c'est pas prétentieux, mais je pense que mon expérience, mon ressenti, ma sensibilité peut aussi faire résonner d'autres sensibilités. Que j'ai envie de partager ça, que j'ai envie de partager la joie et la douleur qu'il peut y avoir dans cette histoire. Ce que j'ai envie de partager aussi, qui est très présent dans le livre, c'est l'amour de la musique et l'amour de la littérature. Et puis voilà.
Et cette prévention aussi sur la santé mentale.
Et cette question
un peu
de la santé mentale.
Peut ressentir aussi peut-être,
oui,
en tant que personne.
C'est aussi en tant que personne qui va accompagner quelqu'un. Pour moi, c'est un peu furtif. Hein, c'est vraiment sur la fin de sa vie. Voilà, mais...
Ce qu'on peut ressentir et se laisser ressentir aussi en tant que personne extérieure à la maladie,
oui,
peut-être.
Oui, tout à fait, tout à fait. Donc pour moi, c'est important. Ça fait partie du geste, même si je dis qu'au départ, je l'ai écrit pour lui. J'ai toujours eu dans l'idée aussi qu'il fallait que ça existe. Et puis en plus, en fait, ce qui m'a un peu donné un coup de pied aux fesses, parce que j'ai quand même rechigné à l'écrire ce livre, c'était difficile, hein. c'était une épreuve. Ce qui m'a poussée à le faire, c'est qu'il y a eu, j'ai répondu à un appel à projet de la région pour demander une bourse. À partir du moment où j'ai obtenu cette bourse, j'étais engagée non seulement à l'écrire, mais aussi à le présenter à un éditeur. Donc il fallait que je tienne cet engagement, mais peut-être que s'il n'y avait pas eu cet appel, je n'aurais pas écrit ce livre non plus. Mmh. Peut-être que je l'aurais, ou plus tard, ou autrement. Donc voilà. Ça...
Mais c'est un livre qui signifie beaucoup pour vous aujourd'hui aussi.
Oui, oui, oui. C'est un livre important pour moi, oui.
Et ce n'est pas que l'histoire de cet homme, mais aussi la vôtre.
Voilà.
Celle de votre jeunesse, comme oubliée avec les années, ça vous... C'est une forme de lien aussi avec la Émilie d'une vingtaine d'années.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous souhaitez renvoyer à vos lecteurs avec cette histoire, aux jeunes qui vous liraient ?
Alors, aux jeunes qui me liraient, d'abord, j'ai une pensée toute particulière pour ma grande fille Julie, qui a 17 ans, qui écrit elle aussi et qui, j'en suis sûre, sera un jour publié, et qui a connu des moments difficiles, qui a voulu mettre fin à ses jours, quand elle était plus jeune. Ça m'a énormément marquée en tant que mère. Je veux aussi porter un message d'espoir et dire que oui, je pense que l'art, la musique, la littérature peuvent nous porter, nous aider, nous... sublimer la douleur aussi parfois. Parfois, ça ne suffit pas parce que la douleur est trop intense et il faut respecter ce choix de personnes qui choisissent de mettre fin à leur jour. Mais moi, j'ai quand même... J'ai mon propre parcours, effectivement, qui aurait pu m'amener à un moment aussi, moi aussi, à commettre l'irréparable. J'ai fait d'autres choix et j'ai 48 ans aujourd'hui et je suis fière du chemin accompli depuis mes 20 ans avec tout ce que contient mon histoire de sordide et de sombre que je révèle un peu dans ce livre, voilà, en partie, voilà, dont je livre quelques bribes. Ce que j'ai fui, ce que j'ai fui, Jérôme m'a aussi forcé à le regarder en face. Et je crois que c'est important de regarder en face nos blessures, nos traumatismes. Ça, c'est aussi un message pour les jeunes femmes Les jeunes hommes aussi, surtout les jeunes femmes.
C'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait, peut-être ?
Oui. Alors, je vais lire. J'ai envie de lire un rêve. Voilà. C'est un rêve que j'ai fait. Il y a quelques rêves qui ponctuent le livre. C'est le 12e que je raconte. Une salle de théâtre toute noire et sur la scène, un piano éclairé. La salle se remplit. On attend, on parle et le temps passe et rien ne commence. La scène brille encore de cette absence que raconte le halo du projecteur. Le cercle qu'il dessine est vide et le temps passe. On parle, on veut y croire encore et le temps passe. Et le temps passe, on se regarde. Peut-être qu'à force d'attendre, il finira par venir. Moi, je sais que non. Personne ne viendra. Aucun corps ne viendra remplir ce pathétique halo, inutile découpe qui dessine l'absence sur fond noir. Le piano noir, le sol noir, le fond de scène noir, noir les rues, obscure la salle, soucieux les visages, sourire qui retombe dans l'inquiétude d'un divertissement promis qui s'éteint. Ou des enfants privés de sortie du dimanche, il reste encore capricieux pour qu'ils viennent, lui, le pianiste. On ne peut pas leur faire ça. Quand on s'engage, on s'y tient. Dans les coulisses, on temporise. Je suis de l'un et l'autre bord. Je suis en coulisses et je suis dans la salle. Je joue l'attente de celui que je n'attends plus, que j'attendrai toujours. Puis vient l'annonce. Il faut rentrer. Le concert est annulé. Le pianiste ne viendra pas.
Merci beaucoup, Émilie, pour cet extrait. Pour rappel, on peut faire aussi un trigger warning et pour les personnes qui auraient besoin d'aide, le numéro de prévention pour le suicide, c'est le 3114. Et surtout, il ne faut pas hésiter à les contacter, ils sont présents en permanence pour vous aider, vous accompagner si vous vous sentez seule. Voilà. Pour revenir à notre interview, Émilie, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les prochains rendez-vous en votre compagnie, puisque vous faites aussi des lectures voilà.
Alors, les prochains rendez-vous qui concernent la seconde balade, en fait, j'ai une lecture qui s'intitule « La main gauche », mais ce sont des extraits de la seconde balade. Je suis accompagnée par un piano, et le texte que je viens de lire fait très bien la transition, puisqu'il y a un piano, mais il n'y a pas de pianiste. Voilà. Et donc, je le joue vendredi, justement, à 19h, à Cantabile. C'est l'école de musique de Poulainville. L'entrée est libre, il y aura un chapeau. Et il y a également les aquarellistes de Poulainville, on fait du lien aussi avec la commune, qui exposeront des œuvres inspirées par les thèmes du roman. Voilà. Donc, il y a eu un projet avec l'atelier aquarelle autour de mon livre. Et donc, ce sera exposé à cette occasion. C'est vendredi qui vient, vendredi 13, à 19h. Voilà.
Et aussi, le 28 mars, on vous retrouve à la théière de la librairie.
Tout à fait.
Ouais. Pour une signature.
Théière de la libraire, oui. Pour une signature. Alors, je me souviens plus des horaires exacts, mais c'est dans l'après-midi, en tout cas.
Est-ce qu'on peut retrouver vos actualités, peut-être, sur les réseaux sociaux?
Oui. Sur mon... Je ne suis pas très bonne en réseaux sociaux. Mmh. Néanmoins, j'ai ma compagnie théâtre, Compagnie Le Poulailler, où on me trouve facilement. Je suis en train de me faire un site d'autrice, mais je n'ai pas fini.
C'est long.
Sinon, j'ai un Facebook, Émilie Gévard, et un Instagram également. Donc voilà, on peut retrouver toutes ces infos par ce biais.
Eh bien, merci beaucoup, Émilie Gévard, d'avoir répondu à toutes mes questions
merci
et de nous avoir présenté ce très beau livre aussi,
merci.
Cette histoire.
Merci. Seems I've got to have a chance to see you. Every night I have the strangest dream. Impressing by the way that could have been. Left you on my own arm, so it seems I've got to leave before I start to scream. Cause someone left the door and took the key. You feel it all right?
C'était Feeling Alright de Joe Cocker. Vous êtes toujours à l'écoute d'Info Club Sandwich, votre émission d'actualité locale et associative sur Radio Campus Amiens. C'est le moment des actualités et je peux vous dire que la semaine est bien chargée. On commence avec le tremplin Pulsation du Crous. Demain, à la Lune des Pirates, les quatre sélectionnés vont se produire sur scène dès 20h30. C'est gratuit pour tout le monde et le petit plus cette année, nous serons en direct sur Radio Campus Amiens pour vous transmettre les concerts en live et surtout vous annoncer en direct les lauréats et lauréates de ce tremplin. Deux prix sont à remporter, celui du public, donc venez voter, et celui du jury. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de la Lune des Pirates. On continue avec un vernissage à la Galerie Totem sur la place Notre-Dame. Retrouvez l'exposition Chez nos manquants, une conception de Julie Beauté et de David Le Borgne. Le vernissage commence à 18h demain, c'est entrée libre. Et c'est pour compléter la performance Lymph Blood Story 94-24, qui jouera quatre fois à la Maison du Théâtre du 17 au 20 mars. Julie Beauté et David Le Borgne, vidéastes et photographes, font dialoguer leurs pratiques artistiques à travers cette exposition qui s'empare de la thématique de l'exhibition du corps pathologique. Pour en savoir plus et découvrir leur travail, c'est à la Galerie Totem dès le 10 mars jusqu'au 21 et il reste également des places pour découvrir la performance de Julie Beauté à la Maison du Théâtre. Tout est disponible sur leur site internet. Et enfin, on termine avec le spectacle Le Mandat qui se jouera dès mercredi à la Maison de la Culture. Et si je vous en parle, c'est parce que nous vous en proposerons une chronique dès le lendemain dans l'Info Club Sandwich, donc restez à l'écoute. Le Mandat, c'est un vaudeville à la russe autour de deux familles après la chute du tsar, l'une issue de l'aristocratie et l'autre de la petite bourgeoisie post-révolutionnaire, tentant de s'allier pour conserver leur place dans une société en mutation. Je ne fais que citer la Maison de la Culture, mais cela promet deux heures de rire et un retour en arrière d'un siècle. C'est le 11 et 12 mars à 19h30. Alors n'oubliez pas que demain, nous sommes en direct de la Lune des Pirates dès 21h. Et pour l'Info Club Sandwich, nous recevrons William Tessier du ciné Saint-Leu. C'est terminé pour aujourd'hui. Belle journée sur Radio Campus Amiens. On se quitte On se quitte, pardon, sur le titre « M'amour » de Audezen. À demain sur le 87.7 FM.
Sortir le matin, manger des gâteaux gras, pleurer devant un film et gratter les jeux de hasard. J'aime les garanties, j'aime ne pas avoir le choix. Le pâté de campagne et les caresses du passé. J'aime l'odeur de l'essence, les essences de jasmin. J'aime les flammes habitées et les paysages cramoisis. J'aime ce que procure la gaieté au visage renfermé. J'aime l'espace attendre l'autobus quand il pleut. Les arbres au printemps, quand les gens y m'appellent monsieur. Manger avec les doigts et aussi casser les œufs. J'aime les battements de cils, les âmes agitées. Le don d'ubiquité et la lucidité. J'aime la couleur du miel et le son des abeilles. Comment elle tue l'ennui, la confiture de groseille. J'aime en kikiner ma mère, l'orientation d'un vent contraire. Quand la musique rend heureux. 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 Oui, oui, oui. On aurait dû vivre, vivre, vivre. On aurait dû vivre plus d'un million d'années. Si seulement. J'aime la gymnastique, les balades avec toi. Le thym, le romarin et les histoires de princes arabes. Les facettes du cœur, le bel équinoxe d'été. Le lourd poids de la nuit, les envies inopinées. La neige de Montréal et toutes les routes vallonnées. J'aime le style que t'as quand tu me prends dans tes bras. Les baisers brûlés sans raison, les regards qui parlent tout bas. J'aime les fossettes de ma sœur, les frères qui m'ont assisté. Les rencontres dans le train, les serpents hypnotisés. Les feuilles d'acacia, les faiblesses de chacun. Oui, 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 on aurait dû vivre, vivre. On aurait pu vivre. D'un million d'années. Si seulement tu. Oui, oui, oui. On aurait dû le dire. On aurait pu le faire. Même sans raison d'y aller. Si sûrement que. Si sûrement, oui.